Bonjour à vous tous, bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et c'est une grande joie pour moi de me joindre à toute l'équipe de communicateurs et particulièrement à Pasteur Claude pour vous apporter la parole dans cette nouvelle série sur la fin des temps et moi. Et je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi que cette série tombe exactement à un bon moment. Cette série est pertinente et va être impactante. Si vous n'avez pas encore regardé le premier message de Pasteur Claude, je vous encourage à le regarder. C'était extrêmement puissant. Et aujourd'hui, c'est avec joie que je vais adresser le sujet des changements climatiques dans le cadre de la fin des temps. Et probablement, vous vivez la même chose que moi partout, lorsqu'on se promène beaucoup dans la société, dans les médias, à la télévision, dans les nouvelles, bien sûr, aux informations, on entend beaucoup parler de changement climatique. Et lorsqu'on parle de changement climatique, on va aborder le sujet de réchauffement de la planète. Et lorsqu'on parle de réchauffement de la planète et toutes les conséquences que cela peut engendrer, c'est vraiment une situation qui est très préoccupante pour l'ensemble de la communauté scientifique, mais aussi cette situation est préoccupante pour beaucoup d'entre nous. Et je sais aussi pertinemment que lorsqu'on parle de changement climatique ou lorsque je parle de réchauffement de la planète, pour certains, dans certains cercles, peut-être que ce sujet peut être un peu controversé. Et peut-être pour d'autres, vous admettez que, bien sûr, qu'il y a des changements climatiques, mais ce sujet-là peut vous sembler peut-être lourd, peut-être déprimant. Pour certains, lorsque on parle de changement climatique, on a un sentiment d'impuissance. Même pour certains, ça peut être même culpabilisant, savoir qu'est-ce qu'on peut faire devant ce grand défi-là. Mais aujourd'hui, vraiment dans le cadre de cette série, mon objectif, loin de là, n'est pas de vous faire la morale. Ce n'est pas non plus qu'on se sente coupable. Ce n'est pas non plus de je vais pas être ici pour vous dire quoi mettre dans votre bac à recyclage. Loin de là, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est regarder à travers les Écritures qu'est-ce que la Bible dit au sujet des changements climatiques. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la fin des temps? Si je commence dès le début, en fait, peut-être que je vais vous faire sourire, mais qu'est-ce que la Bible dit à propos des changements climatiques? Je vais vous dire bien franchement, peu de choses. Parce que la Bible n'est pas un livre de climatologie, mais la Bible est un livre de vie. Mais lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que, bien sûr, elle décrit à certains moments de l'histoire des événements, des catastrophes naturelles qui ont pris place. Par exemple, on peut penser lors du déluge avec Noé, dans la période où Noé était sur Terre, la Bible nous révèle qu'il y a eu un grand déluge sur la Terre. Et par la suite, on peut regarder aussi à la période où le prophète Élie a vécu, la Bible nous décrit qu'il y avait une grande sécheresse. Donc, on voit qu'à travers l'histoire, il y a eu des changements climatique. Mais par contre, aussi, lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, on voit aussi que dans les évangiles, Jésus va parler de catastrophes naturelles. Et Jésus va parler de ces catastrophes-là dans le cadre de la fin des temps. Il va dire qu'il va y avoir des catastrophes qui vont être plus rapprochées, de plus grandes conséquences, que tout ceci, ces phénomènes naturels-là vont s'accentuer. Et dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, on peut lire les propos de Jésus à ce sujet-là en rapport dans l'angle de la fin des temps. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le premier texte. Se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Et j'ai pris ce texte-là parce que on va voir que dans celui-ci, dans ce passage-là, il y a une description qui est peut-être un petit peu plus explicite du point de vue des catastrophes naturelles. Et je dirais pas scientifique, mais on a un peu plus de détails. Et peut-être parce que c'est dû au fait que Luc était un médecin qui avait un arrière-plan, il était scientifique de formation. Et on va voir ensemble comment, quelles sont les paroles de Jésus par rapport aux catastrophes naturelles et la fin des temps. Alors, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, on va commencer au verset 6. C'est-à-dire, Jésus leur dit, « Il viendra un temps où tout ce que vous regarderez sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre. Maître, lui demandèrent-ils alors, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu? » Verset 8, Jésus va leur dire, « Faites attention. Ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi le Messie » ou encore « Le temps est venu, ne les suivez pas ». Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Verset 10, puis il ajouta, « On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. » Et le verset 11 que nous allons développer ensemble, c'est « Jésus dira, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Des famines et des épidémies, des pestes séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. » Et c'est fascinant parce qu'on voit à travers ce passage-là que Jésus annonce qu'il y aura, dans la fin des temps, que ces catastrophes naturelles-là vont s'accentuer, qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des famines, qu'il y aura des pandémies. Et là, c'est un peu lorsqu'on regarde à travers les Écritures et qu'on regarde du côté scientifique ce qui se produit aujourd'hui, c'est fascinant de voir qu'on peut y trouver une certaine correspondance. En ce moment, les scientifiques affirment que nous vivons dans une période de l'histoire où les climatologues ont observé un réchauffement de la planète. Et lorsque je parle de réchauffement de la planète, je ne fais absolument pas référence à la météo. Nous savons très bien que la météo fluctue de jour en jour et même d'heure en heure. Et j'aime parfois le dire en riant, mais si vous habitez au Québec, alors ceux qui nous écoutez peut-être de l'île de la Réunion ou dans les pays chauds de la Martinique, si vous habitez au Québec, vous comprenez qu'au mois de janvier, à Montréal, il est difficile de croire que la planète se réchauffe. Et ça, on parle de météo et on ne parle pas de réchauffement de la planète. J'espère vous comprenez la subtilité. Lorsqu'on dit que la planète se réchauffe, nous parlons de climatologie et la climatologie est basée sur une série d'événements météorologiques qui se produisent sur une longue période de temps. Et ce qui est important de dire, c'est que la majorité, sinon la totalité des climatologues affirment que la Terre se réchauffe et que ce réchauffement est causé par l'activité humaine, on appelle une activité qui est d'origine anthropique et non due à un cycle naturel. Pourquoi je précise et non due à un cycle naturel? C'est que lorsque je me préparais pour ce message ou lorsque je discute avec des gens et que je parle et je dis aux gens, écoutez, nous vivons dans un ère où la planète se réchauffe. Certains vont me dire, écoute Stéphanie, est-ce que je suis pas certaine que la planète se réchauffe et que c'est si grave que ça. Tu sais, l'humanité, l'histoire de la Terre a passé par divers cycles naturels, de réchauffement et de refroidissement. Et c'est vrai. Par contre, les climatologues affirment que le réchauffement climatique que nous vivons en ce moment ne fait absolument pas partie d'un cycle naturel. Et comment on peut l'affirmer? Alors, dans une revue scientifique de haut niveau, PNAS, qu'on appelle, c'est vraiment une revue scientifique qui est très sérieuse. Je prends une étude que je peux vous citer, mais il en existe vraiment plusieurs. Mais le Dr. Burke et ses collaborateurs ont affirmé en 2018 que le climat de la Terre a toujours changé. Mais l'étude des climats passés nous montre que les changements des 150 dernières années ont été exceptionnels et ne peuvent être naturels. Alors, si on Au contraire même. Il est faux de dire que si la planète se réchauffe, c'est parce que nous sommes dans un cycle de réchauffement naturel. C'est tout à fait le contraire, parce que si on se fie au cycle naturel, nous devrions être dans dans un cycle de refroidissement, et pourtant, on observe des augmentations de la température à la surface de la Terre. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble le graphique que vous voyez apparaître à l'écran. Et ce graphique est tiré vraiment du site de la NASA et il a été repris aussi dans d'autres revues scientifiques. Et c'est un graphique qui montre la température de la surface de la Terre et l'énergie solaire qui a été reçue sur la Terre de 1980 à 2019. Et lorsqu'on regarde ces courbes-là, la courbe jaune représente l'énergie solaire que la Terre a reçue, comme j'ai dit, de 1880 à 2019. Et la courbe rouge représente la température à la surface de la Terre. Et je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais on constate vraiment une corrélation entre l'énergie solaire reçue et les températures à la surface de la Terre, environ des années 1880, mais à partir du début de 1900, des années 1900, 1920, 1950, on voit apparaître en rouge, vous voyez, cette courbe qui monte, tandis que l'énergie solaire reçue sur la planète Terre reste constante. Alors, de façon scientifique, il est prouvé que ce réchauffement-là n'est pas dû à un cycle naturel. Et il y a d'autres personnes qui vont me dire, ben oui, Stéphanie, on admet, on croit que la planète se réchauffe, mais dans le fond, c'est pas si alarmant que ça, parce que au cours de l'histoire, les plantes, les animaux, les êtres humains ont eu la capacité de s'adapter dans ces cycles de variation de température. Et encore là, je vous dirais, c'est vrai. C'est vrai que Dieu a créé avec l'homme, les animaux, les plantes, toute sa création avec cette capacité d'adaptation. Mais la chose qui se passe en ce moment, c'est qu'on oublie que les périodes de réchauffement antérieures se sont étendues sur des milliers d'années, laissant le temps, bien sûr, aux organismes de s'adapter à leur environnement. Ce que nous vivons en ce moment, c'est un réchauffement sur une courte période de temps. Ce qui empêche, ce qui fait que les organismes, l'être humain et toutes les animaux, les plantes, ne peuvent pas s'adapter sur une si courte période de temps. Alors, quelles sont les évidences du changement climatique? Alors, les évidences sont simples. Encore là, à l'aide d'un petit graphique, je vais vous démontrer. Encore là, c'est un graphique qui est tiré aussi de la NASA, site de la NASA. Vous pouvez trouver ces données-là aussi dans une revue de littérature de l'ACFAS. Et vous allez voir qu'on démontre, si on regarde ce graphique-là, représente l'accroissement des températures de la surface terrestre depuis l'époque pré-industrielle jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voyez la courbe noire, vous voyez la température qui augmente et la courbe verte, c'est les causes naturelles. Et la courbe rouge, je prends juste le temps, vous pouvez regarder, représente les causes humaines impliquées. Et on voit qu'à partir de l'époque pré-industrielle jusqu'au à peu près aux années 1950, où l'industrialisation s'est accrue, on peut voir une augmentation des températures et que celle-ci est parfaitement corrélée avec l'augmentation de l'activité industrielle. Alors, il y a un consensus au niveau scientifique que la planète se réchauffe en accéléré depuis l'époque industrielle. Et ce consensus-là, c'est à travers tout, je vous dirais, un consensus à travers toute la communauté scientifique. Il y a un Dr. James Powell a publié un article en 2019 dans une autre revue scientifique de haut niveau. Et le titre de cet article était « Les scientifiques atteignent un consensus à 100% sur le réchauffement climatique anthropique. » Alors, il existe un consensus sur le fait que ce que nous observons un réchauffement de la planète et que ce réchauffement-là ne fait pas partie d'un cycle naturel, mais que ce réchauffement-là est dû et causé par l'activité humaine. Et j'aimerais, je trouve ça important de le préciser parce que je suis d'arrière-plan scientifique. J'ai publié moi-même des articles scientifiques dans des revues quand même assez prestigieuses. Et c'est extrêmement difficile de publier des travaux de recherche. Et pour être publié dans ces revues-là, il faut que ce soit évalué. Vos résultats doivent être évalués par des pairs. Et aussi, toutes les résultats scientifiques à propos de la climatologie est soumis aussi à l'évaluation par un groupe que vous avez sûrement entendu parler souvent, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et en 2018, le rapport d'évaluation du GIEC a déclaré que l'influence humaine sur le climat est la cause dominante du réchauffement observé depuis le milieu du 20e siècle. Alors, il est évident qu'il existe des changements climatiques. Et je ne voudrais pas être... Je crois que comme croyant, il faut faire attention lorsqu'on on parle de climato-sceptique. Il faut faire attention aussi lorsqu'on parle d'être... ne pas être climato-sceptique, mais de pas être climato-alarmiste. Mais une chose est certaine, avec les revues de littérature, avec les publications de recherche, il faut être climato-réaliste et il faut avouer qu'il existe un réchauffement de la planète. Mais quelles sont les causes de cette augmentation de température sur la planète? Quelles sont les causes du réchauffement climatique? Et... En fait, j'ai dit que ces causes-là étaient d'origine anthropique, que c'était dû à l'activité. Et on va parler, bien sûr, juste quelques instants, parce que c'est pas le but de mes propos, mais juste pour vous montrer comment Dieu a tellement bien créé cette planète, comment la Terre qu'il nous a donnée, sa création, est parfaitement régulée. Et une des causes que vous savez probablement, là, on parle beaucoup en ce moment, une des causes du réchauffement de la planète est les gaz à effet de serre. Et en fait, souvent, on va dire que les gaz à effet de serre, c'est ce qui produit, c'est ce qui crée cette augmentation de température-là. Mais en fait, c'est vrai et c'est faux en même temps. Ce qui crée le réchauffement climatique est l'augmentation par l'activité humaine, des gaz à effet de serre. Et encore là, j'ai un petit schéma à l'appui. Et vous savez, les gaz à effet de serre, l'effet de serre est extrêmement bénéfique pour la planète Terre. Et si vous regardez sur le schéma qui est derrière moi, comment la température que nous vivons, la température sur la Terre est une température parfaite pour accueillir la vie. Le soleil envoie des rayons de l'énergie solaire, par le fait même, sur la planète Terre. Et par la suite, cette énergie solaire-là va être transformée en rayons infrarouges. Pas tellement important de savoir le détail, mais ce qui est important de savoir, c'est que l'effet de serre qui existe en ce moment, cet effet de serre-là, créé par des gaz à effet de serre, permet aux rayons infrarouges, du moins une partie des rayons infrarouges, permet à ceux-ci d'être captés à l'intérieur du globe. En fait, l'effet de serre, c'est bénéfique. C'est l'effet, c'est comme si vous mettiez une cloche. Vous avez déjà amené cette cloche ici. Imaginez que, bon, c'est symbolique, mais imaginez que c'est la planète Terre et que l'effet de serre, c'est comme si nous avions une cloche sur la planète Terre et qui nous permet de garder la chaleur à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que sans l'effet de serre, sans effet de serre, la planète Terre aurait une température de moins 18 degrés Celsius. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'eau, il n'y aurait pas d'eau qui pourrait être liquide, c'est pas une température pour accueillir la vie. Et c'est juste extraordinaire de comment notre grand Dieu créateur a permis dans sa création qu'il y ait cet effet de serre-là constitué de gaz, de CO2, de méthane, de plusieurs gaz comme ça, et qu'elle permet d'avoir une température idéale à la surface de la Terre. Le problème, ce sont l'augmentation des gaz à effet de serre. Lorsqu'on augmente la quantité de CO2 ou de méthane, on accentue le phénomène de cloche. C'est comme si la cloche devenait de plus en plus épaisse, ce qui fait que la chaleur ne peut pas être évaporée, ne peut pas se dégager dans l'atmosphère et reste capturée à l'intérieur. Alors, c'est important de savoir que oui, il y a un réchauffement de la planète. Oui, qu'il y a des gaz, l'augmentation des gaz à effet de serre contribue à augmenter la température sur la Terre. Mais quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? Et là, c'est là que je m'en viens, tout ce préambule-là, pour vous faire peut-être réaliser ensemble, qu'on puisse réaliser quelles sont les conséquences de ces changements-là que nous observons avec ce que Jésus a dit à la fin des temps. Et j'aime dire ça, je dirais, curieusement ou non, les conséquences ou les impacts du changement climatique s'apparente à ce que Jésus avait annoncé lors de sa venue sur Terre. Il est possible aussi qu'on se dise, à la lecture de la Bible, de l'Apocalypse, c'est possible de croire que notre monde va être complètement détruit au retour de Jésus-Christ ou lors du jugement dernier. Mais il est possible aussi de croire que les changements climatiques, je dirais les conséquences qu'on va voir dans quelques instants, il est possible de croire que les conséquences des changements climatiques soient des signes de la fin des temps. J'aimerais vous ramener dans le premier verset qu'on a regardé ensemble, dans l'évangile de Luc au chapitre 21, et particulièrement, vous savez, au verset 7, les gens vont lui dire « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe reconnaîtront que ces événements vont se produire? » Et verset 11, Jésus va dire « Il y aura des grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des pestes, on dit des épidémies et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans la terre. » Dans le ciel, pardon. Il y aura des grands signes dans le ciel. Et j'ai dit curieusement, parce que lorsqu'on regarde d'un point de vue scientifique les conséquences du réchauffement climatique, on pourrait croire que les conséquences du changement climatique s'apparentent à ce que Jésus avait dit. Pourquoi je peux dire ça? Parce que lorsqu'on regarde dans la littérature scientifique et les prévisions, et même ce qu'on observe aujourd'hui, on s'aperçoit que, vous savez, depuis, on a eu une augmentation de la température d'environ 1,2 degré. Et les prédictions seraient que d'ici 2025, la température à la surface de la Terre augmenterait jusqu'à 1,5, qui a l'air tellement, ça a l'air un petit changement. Mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que notre planète est complètement bien régulée avec cet effet de serre-là. Mais vous savez, tous les paramètres de régulation des forces électromagnétiques, de toutes ces forces-là, des forces thermodynamiques, toutes ces forces-là sont parfaitement régulées et un petit changement de rien peut complètement désorganiser l'équilibre planétaire. Et c'est exactement ce qui se produit avec le réchauffement de la planète. Vous savez que, selon les pronostics, si on ne change rien, d'ici 2100, les scientifiques, les climatologues prévoient une augmentation de 4 degrés à la surface de la Terre. Alors, ce changement-là a commencé à causer des catastrophes naturelles. Un peu qu'est-ce que Jésus disait lorsque on arriverait dans la période de fin des temps. Vous savez, lorsque je parle de catastrophes naturelles, je fais allusion à des conditions météorologiques qui sont extrêmes. On parle et on a vu et les scientifiques nous disent que s'il n'y a aucun retour en arrière, dans les prochaines années, nous allons voir une augmentation des fortes pluies à certains endroits. On va voir des inondations, des ouragans, des cyclones. Et c'est exactement ce qu'on a commencé à observer. Vous savez, aux Philippines, en ce moment, on dénote jusqu'à 20 cyclones par année. En 2020, il y a un typhon, le typhon Goni, qui a touché les Philippines et qui a détruit tout sur son passage. On parle de des vents à 225 km/h. Près de 1,9 million de personnes qui ont été évacuées, 30 000 maisons endommagées. Et pourquoi il faut s'arrêter un instant et réaliser que cette augmentation de température-là perturbe notre planète. Et aussi, ce qui est ce qu'il faut s'arrêter aussi de voir, c'est qu'on parle de catastrophes naturelles. Mais derrière ça, il y a des vies humaines. Maintenant, les scientifiques vont parler de migrants climatiques, de famine climatique. J'ai été dans un voyage missionnaire aux Philippines. J'ai été sur l'île de Cebu, qui est un paradis terrestre. Mais lorsque j'étais là, je parlais avec des gens. Vous savez, on a emmené... je suis allée pour un voyage humanitaire. J'ai visité, emmené de la nourriture, partagé l'Évangile dans des bidonvilles de cette ville-là. Et beaucoup de gens vivent dans des conditions extrêmement difficile, extrêmement précaire. Et lorsqu'on était allé, il y avait eu encore un cyclone qui était passé pas longtemps avant. Et ils vivent dans une angoisse parce que le climat est perturbé. Ils vivent ces cyclones-là. Et ça crée, bien sûr, des famines. Ça crée des déportations. Ça crée de la pauvreté. Et c'est ce que Jésus annonce. Il dit que dans les derniers temps, il y aura ces tremblements de terre. Il y aura des famines. Il y aura des guerres. Parce que même dans certains pays, vous savez, il y a des inondations, mais dans d'autres pays, c'est des sécheresses. Le désert est en train de s'agrandir et on voit des migrants, comme j'ai dit, climatiques. On a parlé de pluie abondante et tout ça, mais aussi dans certains endroits, on observe des canicules, on observe de grandes sécheresses. Juste pour vous dire, cette année, au Canada, dans l'Ouest canadien, on a obtenu des températures d'au-delà 50 degrés Celsius. Et même dans l'Ouest des États-Unis, les photos qui ont été rapportées, ça montrait à San Francisco le pont avec le ciel qui était rempli de fumée. Et il y a un article de journaux qui titrait « un ciel apocalyptique en Californie ». Est-ce que ceci veut dire que nous sommes dans la fin des temps? Je ne peux pas le dire. Une chose est certaine, ce que je peux affirmer, c'est que les changements climatiques engendrent des catastrophes naturelles que Jésus a dit que celle-ci allait s'accentuer à la fin. Et lorsqu'on parle des incendies, c'est beaucoup relié au réchauffement de la planète. Tous ces feux de forêt qui ont été brûlés, vous savez, il a été rapporté qu'aux États-Unis, 2 millions d'hectares qui ont été brûlés par les feux de forêt et que ceux-ci sont attribuables au réchauffement climatique. 2 millions d'hectares, c'est énorme. Ça fait 20 millions de kilomètres carrés. Et j'ai dit, je parle de perturbations météorologiques au niveau des pluies abondantes, des sécheresses. Mais que dire aussi qu'en ce moment, nous observons une fonte des glaciers. Et juste pour vous montrer la photo, regardez la photo. C'est une photo, une image aérienne qui a été prise à partir de drones en Islande. Et on voit les glaciers islandais en 1989. Vous pouvez voir la présence de glace. Et en 2019, c'est à peine 40 ans, on voit que ces glaciers-là ont fondu. Les scientifiques rapportent qu'il y a à travers le monde 9 milliards de tonnes de glace qui ont fondu. C'est énorme. C'est 1,8 fois 10 à la 15 livres de glace qui ont fondu. Et lorsqu'on parle, bien sûr, de glace, plus les glaces fondent, c'est un cycle vicieux. Plus les glaces fondent, plus la planète se réchauffe, plus les glaces fondent, plus ça contribue aussi encore à réchauffer la planète et les océans qui sont en train d'inonder et de s'étendre partout. Et je veux pas être alarmiste, mais je veux quand même déclarer, et tout ce que je vous dis là, ce n'est pas tiré à droite et à gauche et de discussions comme ça, c'est le fruit de recherches scientifiques et c'est démontré dans la littérature scientifique. Et même certains chercheurs avance la possibilité que le réchauffement climatique pourrait contribuer à libérer des virus. Aujourd'hui, on parle, c'est pas moi qui le cite, on parle de peste climatique, d'épidémie climatique sous l'effet de la haute température et du dégel, on dit du permafrost, mais du pergélisol. Lorsque ça va dégeler avec le réchauffement, ce permafrost-là va libérer des virus ou des bactéries qui étaient enfouis, gelés pendant des milliers d'années. Et il se peut, et je cite ici une revue scientifique qui annonce l'hypothèse que le changement climatique va faire apparaître des virus et qui peuvent conduire à des épidémies. Et là, J'espère que, j'ai dit, je ne veux pas être une climato-alarmiste si pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui est assez mesuré dans mes propos. Et en fait, le but de toute cette démonstration-là, ça n'est pas absolument pas pour se faire peur et paniquer, c'est tout à fait l'inverse. Et j'aimerais qu'on se pose la question, que devraient être nos comportements face au changement climatique? Le premier comportement que, comme croyants, comme chrétiens, que nous devrions avoir, c'est qu'il faut prendre soin de notre planète par des gestes concrets. Pourquoi prendre soin de la planète? Parce que Dieu nous l'a donnée, parce que Dieu l'a créée parfaitement pour nous. Pourquoi prendre soin de la planète? Parce que Dieu aime sa création. Lorsqu'on lit dans le livre de Genèse, à 6 fois, Dieu va regarder sa création, il va dire « c'est bon, c'est bon », c'est même, il va dire à la fin, lorsqu'il va tout regarder, il va dire « c'est très bon ». Il faut prendre soin de la planète parce que Dieu aime, Dieu l'a créée parfaitement. Il faut aussi prendre soin de la planète par un souci de justice sociale. J'ai été frappée lorsque je me préparais pour ce message et Dieu m'a parlé dans mon cœur. C'est comme si, des fois, on a une vision qui est tellement juste fermée. On voit peut-être notre réalité, mais on ne réalise pas que toutes ces catastrophes naturelles touchent beaucoup, majoritairement, encore plus des pays qui sont prises avec la pauvreté, des pays qui sont démunis ou en voie de développement. Et je crois que par souci de justice sociale, il est important de s'arrêter et de regarder qu'est-ce que je peux faire pour aider, contribuer. Vous savez, l'Église Nouvelle Vie a un comité vert. On n'a plus de bouteilles en plastique, on a des bouteilles comme ça, thermos, on essaie de moins imprimer. On est conscientisé comme Église à prendre soin de notre planète par souci de justice sociale, pour prendre soin de la création de Dieu, mais par justice sociale, parce que la Bible nous dit qu'il faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées et notre prochain comme nous-mêmes. Et prendre soin de la planète, c'est aimer notre prochain, c'est aider à réduire tout ce qui est les migrants climatiques, la famine à travers le monde. Et malheureusement, des fois, on a l'impression que qu'est-ce que mon geste peut changer? Peu importe. Dieu t'appelle à faire les gestes que Dieu te demande de faire. Et aussi, c'est important, c'est triste, parce que malheureusement, avec l'avidité, vous savez, l'avidité humaine, l'appât du gain, le désir constant d'accroître nos richesses, et particulièrement par les grandes compagnies, il faut le dire, qui régissent notre économie, tout ceci contribue à abîmer, à créer ce dérèglement planétaire climatique. Et c'est exactement ce que la Bible, dans les derniers temps, dans 2 Timothée, c'est le thème, c'est le verset thème de cette série, dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 1, ça dit « Dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, avides d'argent ou amis de l'argent. » Donc, je crois, sans mettre de pression, mais je crois qu'il faut être conscientisé de voir qu'est-ce que je peux faire moi comme geste concret. Deuxièmement, comment devons-nous nous comporter comme croyants face à ces changements climatiques-là? Je crois qu'il faut prendre soin de soi et prendre soin des autres. Lorsqu'on parle de changement climatique, de catastrophes naturelles, les images que je vous ai présentées, de famine, on parle surtout avec cette période de pandémie que nous traversons, que nous avons traversée, et qu'on parle de fin des temps, ça peut être extrêmement anxiogène. Toute cette période, surtout lorsqu'on on a encore plus réalisé à travers la pandémie qu'on n'avait pas de contrôle sur beaucoup de choses. Et ça peut créer de l'anxiété. Et encore là, les scientifiques disent qu'avec les changements climatiques est arrivé un autre phénomène qui s'appelle l'éco-anxiété. C'est quoi l'éco-anxiété? C'est un phénomène qui est bien réel, diagnostiqué par beaucoup de gens lorsqu'ils vont consulter, aller chercher de l'aide. L'éco-anxiété prend ses racines dans l'incertitude. Ça a un sentiment d'impuissance. Ça prend ses racines dans l'impossibilité d'envisager l'avenir et de se projeter. Vous savez, les jeunes sont encore plus sensibilisés au changement climatique. Ils font face encore plus à l'éco-anxiété parce qu'on parle de leur futur. Et je crois comme croyant qu'il faut tendre l'oreille, il faut être sensible dans les temps dans lesquels nous vivons. les gens, je ne sais pas si vous avez entendu les mêmes propos autour de vous. Moi, j'ai des jeunes adultes et des fois, lorsque je parle avec des jeunes adultes de mon entourage, certains vont me dire, on a toujours pensé qu'on voulait des enfants. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je voudrais mettre des enfants au monde dans l'état, dans la situation dans laquelle nous vivons. Nous vivons des temps qui sont extrêmement, qui beaucoup de gens sont aux prises avec l'anxiété. Peut-être que tu écoutes ce message, tu es devant ton écran, devant ta télévision, tu es peut-être sur ton téléphone, tu écoutes le message et tu souffres toi-même d'anxiété. Et il y a un sondage qui a été mené par une firme très connue au Québec, la firme de sondage Léger, qui révèle, imaginez, que un Québécois, 47 % des gens au Québec, donc presque un Québécois sur deux, se disent anxieux par rapport à leur revenu, par rapport à leur scolarité, par rapport à leur futur. Et que la source, une des sources d'angoisse qui arrive au quatrième rang, ce sont les changements climatiques. Et c'est extrêmement percutant lorsque le sondage se termine en disant que les jeunes de 18 à 24 ans se disent, à 66 % se disent vivre de l'anxiété, se disent être anxieux. Et je ne sais pas si, alors que j'arrive à la fin de ce message, si je peux changer ma casquette de scientifique et mettre ma casquette de pasteur. Mais j'aimerais le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être que tu écoutes ce message et tu es dans ce une personne sur deux. Tu es peut-être un jeune entre 18 et 24 ans et tu dis, oui, je fais partie des 66 % qui vivent de l'anxiété. Vous savez, la pandémie, c'est un sentiment d'impuissance. L'anxiété, c'est un sentiment de ne pas voir quel va être mon futur, de se sentir démuni, de ne pas voir de solution. Et comment on doit se comporter comme croyant à travers ces changements climatiques, c'est prendre soin de soi. S'il est faux, et je vous invite à écouter le message de Pasteur Claude, c'est impossible. Même Jésus ne sait pas le retour. Même Jésus, la Bible nous dit qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour du retour de Jésus. Par contre, une chose est certaine, c'est que c'est aussi faux d'être déstabilisé par tout ce qu'on parle de retour de Jésus et de catastrophe naturelle. Parce que Jésus avait prédit ces choses. Ça dit, hein, Matthieu 24, verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. » J'aimerais le dire, bien sûr, on est réaliste, éco-réaliste. Il existe des changements climatiques qui vont générer des catastrophes naturelles. Est-ce que c'est la fin des temps? Je ne peux le dire, mais une chose est certaine, c'est que lorsque ces choses, bien sûr, qui vont prendre place, si rien ne change au niveau du climat, si rien ne change dans la gestion écologique que nous en faisons, bien qu'il va apparaître des catastrophes naturelles. Et Jésus dit, ne vous laissez pas troubler. Je veux le dire, Dieu est souverain, Dieu est bon et on va habiter cette planète Terre aussi longtemps que Dieu l'aura décidé. C'est pour ça que j'aime lire ce psaume 46, versets 2 à 3, c'est-à-dire, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, lorsque tu connais Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, lorsque tu as fait de Jésus le Seigneur de ta vie, tu peux être en paix par sa grâce et ne pas craindre les changements. Dans Matthieu encore au chapitre 6, au verset 27 et verset 34, ça dit, « Qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » La Bible nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. » Alors, comment devrons-nous nous comporter dans ces derniers jours, dans ces moments, dans ces changements climatiques? Bien sûr, poser des gestes concrets, prendre soin de la planète parce que Dieu l'a créée parfaite. Prendre soin de nous. Si aujourd'hui, alors que tu écoutes ce message, tu as besoin de paix, peut-être que tu écoutes et tu dis, « Ah, moi, Stéphanie, j'en fais pas d'anxiété. » Moi, je veux dire à quelqu'un qui est prise avec des problèmes d'angoisse, de peur, de crainte, d'anxiété, que je comprends quel est le sentiment qui peut t'animer. Mais je peux aussi affirmer que Dieu a la capacité, lorsque tu lui demandes, de venir te donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu pries, Seigneur, peut-être je suis face à des craintes, des peurs, mais viens me donner ta paix aujourd'hui parce que tu as annoncé ces choses, mais tu as dit que rien ne peut nous séparer de ton amour. Et comment nous devrons nous comporter? Prendre soin de la planète, prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des autres. Et le dernier verset que je veux vous partager, les dernières paroles qui sont rapportées dans l'Évangile de Matthieu, les dernières paroles de Jésus, ça dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, Jésus dit, « Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et c'est exactement, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et malheureusement, dans ces temps troubles, ces temps de pandémie, on est porté peut-être à parler de toutes sortes de choses au lieu de parler de Jésus et de faire des disciples. J'étais au gym, et je vais conclure avec cette illustration-là. Avant la pandémie, je m'entraînais dans un gym. Il y avait un homme que je connaissais qui fréquentait des églises. Il fréquentait l'église ici. Et pour toutes sortes de raisons, il s'est détourné de l'église. Il s'est éloigné un peu de l'église. Et avec le retour, après la pandémie, avec le retour, j'ai pu retourner m'entraîner. Et j'ai vu cet homme-là. Et il m'a dit, « Ah, Pasteur Stéphanie, je suis contente de vous parler. Est-ce que je pourrais vous poser une question? » J'ai dit, oui, bien sûr. Il me dit, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est en pleine pandémie. Les gens autour de moi sont anxieux, mais les croyants que je connaissais, que j'ai connus quand j'allais à l'église, en ce moment, ne parlent que de complot, sont en train de se diviser et ne parlent pas de paix. Et j'ai dit, c'est pas là, il ne faut pas que tu généralises, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est une période peut-être difficile. Et j'ai dit, mais tu sais, Jésus, c'est celui qui donne la paix. Tu peux avoir accès à cette paix-là. Et je suis entrée dans ma voiture et je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, à la fin des temps, tu dis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais en attendant ton retour, tu nous demandes de faire des disciples. Alors, comment nous devons nous comporter à travers tous ces temps anxiogènes de réchauffement de la planète, de catastrophes naturelles, que nous puissions comme croyants, être des ambassadeurs de paix. Aller chercher premièrement la paix pour soi, mais aussi que nous puissions proclamer avec sagesse, avec amour, le plus puissant des messages, Jésus-Christ mort et ressuscité. Ce Jésus qui donne la paix, ce Jésus qui efface les péchés, ce Jésus qui a créé des plans, une destinée, des rêves pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, que nous ne soyons pas troublés, mais que nous soyons conscientisés à l'action, que nous puissions dire, Seigneur, viens aujourd'hui. Et j'aimerais terminer en priant pour quelqu'un. Viens, Seigneur, aujourd'hui, alors que tu écoutes ce message, peut-être ferme tes yeux si c'est toi, de dire, j'ai besoin que tu calmes les vents, j'ai des craintes, j'ai de l'anxiété. On va terminer en priant. Et je prie que de cette paix-là, nous puissions être des messagers d'amour et de paix. Seigneur, j'ai terminé ce message en priant pour un homme et une femme qui luttent peut-être, qui est face à ces défis, face à ces temps troublés, face à ce que les inquiétudes à tous les niveaux, des inquiétudes dans sa famille, ce sentiment d'impuissance peut-être pour sa vie, pour ses ressources financières, peut-être pour ses enfants, peut-être pour l'avenir. Seigneur, tu dis, Seigneur, de te faire connaître nos besoins et que tu viens, Seigneur, et que tu nous donnes une paix qui surpasse toute intelligence. Je prie pour un homme, une femme qui, en ce moment, qui a écouté ce message et qui a besoin de te sentir, qui a besoin que tu calmes les vents, que tu calmes les tempêtes, Seigneur. Viens nous montrer que peu importe tout ce qui va prendre place, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Tu es souverain. Tu es le Tout-Puissant. Tu es plein d'amour. Tu vois chacune de nos situations, Seigneur. Alors viens relever, viens motiver, viens encourager, fortifier ce matin, aujourd'hui, à l'écoute de ce message, quelqu'un qui a besoin de cette paix. Seigneur, je te dis merci parce que tu es au contrôle de tout. Tu es souverain. Nous n'avons rien à craindre, peu importe ce qui prend place, parce que tu nous aimes et que tu nous protèges et que nous avons. Tu as des plans, tu as des projets, tu as des rêves, tu as, Seigneur, toute une destinée pour chacun, chacune d'entre nous. Et la destinée ultime, c'est lorsque nous allons te voir face à face. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse richement.